60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous et nous répondons à toutes les questions que vous nous avez posées. Et on voit bien que la pénurie de talents vous pose beaucoup de problèmes en ce moment parce que les entreprises cherchent des solutions. Bonjour Claude Calmon.
Bonjour.
Vous êtes fondateur du cabinet de recrutement Calmon Partners. Aujourd'hui, on va essayer de trouver des solutions, les formules les plus efficaces peut-être pour que les entreprises arrivent à séduire les candidats aujourd'hui. On l'a vu que effectivement l'équilibre a changé, hein, que la force a changé de main. Alors, est-ce que de quels outils, de quelle boîte à outils par exemple disposent les entreprises aujourd'hui, il y en a plusieurs, pour attirer les talents?
On voit beaucoup de créativité de la part des entreprises, que ce soit en France, à l'international. Il y a les congés illimités, les semaines de 4 jours, des espaces de travail qui changent, le travail à distance, le travail de façon très très différente. Il n'y a pas vraiment de règles, on a très très peu de recul. Puisqu'on va dire que tout ça s'est mis en place à la sortie du Covid. On ne sait pas encore exactement ce qui fonctionne. Une chose est sûre, c'est que les entreprises n'ont jamais autant fait appel à des sociétés comme la nôtre pour les accompagner dans ces problématiques de recrutement.
Alors peut-être qu'une des solutions pour ne pas manquer de talent, c'est de retenir déjà ses salariés. C'est peut-être là-dessus aussi que les entreprises doivent travailler, Claude.
Alors il faut déjà les attirer, effectivement. Il faut après les retenir. On voit beaucoup d'ouverture. Il y a plein de sujets qui peuvent permettre aux gens de rester. Alors évidemment, on parle du salaire, c'est, je dirais, le premier réflexe, mais ça fait pas tout. Les conditions de travail sont extrêmement importantes et les gens restent plus volontiers quand ils se sentent évidemment bien dans leur bureau. Donc beaucoup de sociétés ont fait le choix d'investir assez lourdement dans des nouveaux bureaux physiques avec plus ou moins de capacité, plus ou moins de modernité. Et je crois que c'est déjà un très bon point. Et après, il y a tout le reste, l'intéressement des salariés au capital des sociétés. De plus en plus de start-up grossissent et recrutent et donc permettent aux salariés d'être impliqués sur le long terme, ce qui est assez important.
Est-ce qu'on a réussi à identifier aujourd'hui les secteurs qui sont les plus touchés par les pénuries?
Alors, on l'a beaucoup vu avec le Covid, les métiers de service à la personne, tout ce qui était aussi restauration, hôtellerie, les métiers physiques. Il y a eu beaucoup de départs et pas assez de retours. Donc, il y a vraiment un trou d'air. Là, pour le coup, on manque de ressources. Là où après, d'autres secteurs ont réussi à se rattraper.
On a effectivement des salariés qui se posent des questions. On a cette question ici. Les générations Y et Z ont une approche différente au monde du travail, effectivement, suivant l'âge de ces personnes. La quête de sens change, ce que les gens attendent du travail change. Comment on les séduit?
Alors, on a vu beaucoup d'études à ce sujet. Certaines ont avancé que la motivation de l'argent n'était plus le trigger, pardonnez-moi l'anglicisme, numéro un. C'est la quête de sens qu'on retrouve aussi très très régulièrement. Réussir à intégrer ces nouvelles générations dans un projet moyen long terme, leur faire comprendre pourquoi ils sont là et leurs actions du quotidien, aussi spécifiques soient-elles, doivent être comprises dans un ensemble beaucoup plus grand que ce qu'ils font juste tous les jours quand ils arrivent au bureau. Une relation au management beaucoup plus proche, c'est un peu terminer ce côté du je suis juste un petit numéro, je viens d'arriver dans une société et j'ai pas de contact avec la direction. Ce sont des générations qui ont besoin de sentir ce rapprochement avec les décisionnaires.
Alors, parmi les arguments qui peuvent convaincre peut-être les talents de rejoindre votre entreprise, on en parle depuis très souvent, il y a le télétravail, mais dernièrement, il y a aussi cette semaine de 4 jours qui est en train d'être testée, d'être mise en place. Est-ce que c'est une bonne manière, un bon argument pour attirer les talents?
En tout cas, c'est une idée. Encore une fois, on a très peu de recul sur ce sujet-là. Une entreprise qui connaît déjà une pénurie de talents, si en plus ça doit passer à la semaine de 4 jours, c'est compliqué. Beaucoup de sociétés qui doivent récupérer leur niveau de productivité d'avant Covid, donc ça veut dire que ça complexifie aussi les choses. On l'a vu assez rapidement au Royaume-Uni à la sortie du Covid, la Belgique l'a mis en place. Il n'y a pas de raison que des entreprises ne le mettent pas en place en France, il n'y a rien qui les empêche légalement. Maintenant, je crois que le gouvernement avait annoncé que ce ne serait pas imposé, ce qui est, je trouve, plutôt une bonne chose.
Ce serait plutôt testé sur une certaine période, c'est ça?
C'est ça, et il faut laisser le choix aux entreprises, puisque toutes les économies ne sont pas non plus faites pour ce modèle-là.
Oui, effectivement, Lydie nous dit toutes les industries ou toutes les équipes ou tous les jobs ne sont pas faits effectivement pour être calqués sur cette semaine de 4 jours, par exemple.
Surtout si, à la base, vous manquez de personnel. Mm. Ça va forcément augmenter le volume horaire des autres salariés. Et on est dans une période où je pense que, justement, il ne faut pas trop pousser sur le bouton du burn-out, mm. des heures à rallonge, du travail difficile. Donc, il faut que ça puisse être au choix et à l'appréciation des chefs d'entreprise.
Oui, parce que la décision, ce serait plutôt une demande, effectivement, du côté des salariés, mais les difficultés sont plutôt du côté du chef d'entreprise qui va devoir, par exemple, ne pas contacter ses fournisseurs du vendredi au dimanche, où ça nécessite finalement une organisation qui est particulièrement différente. Finalement, pour le chef d'entreprise, c'est quand même pas anodin.
Ah non, c'est évident. Il me semble qu'en Belgique, le chef d'entreprise doit justifier son refus. Donc ça veut dire que ça met le chef d'entreprise dans une position très délicate. Réorganiser son temps de travail sur 4 jours, quand encore une fois on doit rattraper des niveaux de productivité qui étaient fortement en baisse pendant quasiment 2 ans, c'est pas simple. Alors on peut, quand on est en plein emploi, qu'on sait qu'on a assez de salariés, on peut réorganiser son temps de travail. Mm. Il faut laisser du temps aux entreprises pour s'adapter à ça. Je sens pas une véritable demande d'un point de vue des salariés. En tout cas, les candidats avec qui on travaille nous demandent plutôt du travail à distance. La semaine de 4 jours commence à arriver dans les têtes, mais c'est pas encore une lame de fond.
Le début pour le moment. Vous restez avec nous, Claude. On accueille évidemment, comme tous les vendredis, Mehdi Ramdani pour la chronique LinkedIn. Mehdi, vous avez sondé, vous avez publié les grandes tendances qui vont marquer l'année à venir d'après des experts, Mehdi.
Oui, alors que l'horizon économique s'assombrit, on a profité pour demander aux membres de LinkedIn quelles étaient leurs principales préoccupations sur un plan professionnel pour 2023. Alors sur près de 6000 professionnels qui nous ont répondu cette semaine, 51% s'inquiètent de la stagnation des salaires, 33% redoutent une hausse du stress au travail et 9% craignent pour leur emploi. C'est donc les salaires qui sont la principale préoccupation pour un professionnel sur deux. Mmh. On ne fait que encore et toujours plus sans que les salaires augmentent proportionnellement, s'inquiète Dorian, chargé d'affaires. Les salaires ne sont pas assez attractifs, confirme Ryan, étudiant en alternance, ce qui n'arrange pas la pénurie de talents dont vous parliez justement avec votre expert. Une piste pour redonner un peu d'air aux employés, c'est Aurélien qui l'a fourni. Il est gérant d'auto-école. Il propose de baisser les charges salariales. Cela permettrait de redonner du pouvoir d'achat sans menacer la survie des entreprises confrontées à une explosion des coûts, dit-il.
Alors, il y a beaucoup Oui, après, il y en a qui ont peur de passer une année difficile en termes de pression au travail, Mehdi.
Ouais, de pression, de burn-out, là aussi, vous venez de l'évoquer. En fait, un tiers des répondants anticipent une année difficile avec une vraie augmentation en fait, de cette pression. C'est ce que nous dit Johan, qui est chef de projet. Pour lui, la baisse des recrutements liée à l'incertitude économique va forcément entraîner une hausse du volume de travail, ce qui dégrade la qualité de vie au quotidien. Et puis à cela va s'ajouter un autre motif. C'est tout simplement le manque de visibilité à moyen terme, ce que nous dit Sébastien qui travaille lui dans le BTP.
Et du côté des chefs d'entreprise, on dit quoi alors pour l'année 2023, Mehdi ?
Alors, sans surprise pour eux, ce sont les conséquences de la crise énergétique qui sont redoutées avec un risque bien réel pour l'emploi. Avec la hausse des coûts de l'énergie, Franck, qui est dirigeant dans la restauration collective, pense que des plans sociaux sont à prévoir. Mmh. Et puis en première ligne, on retrouve les petites entreprises. Pour Eric, qui conseille justement des patrons de TPE-PME, beaucoup pourraient ne pas avoir l'endurance nécessaire pour supporter les surcoûts énergétiques. Malgré tout, petit motif de réjouissance, certains chefs d'entreprise tentent de rester optimistes, car cette crise, selon eux, devrait être passagère. Rémi, qui travaille dans l'immobilier, anticipe 6 mois de difficultés, tandis que de son côté, Bruno nous rappelle que les économistes tablent sur un retour à la normale, ou presque, dès 2024.
Voilà, les inquiétudes pour l'année 2023, effectivement, ça semble assez logique. Merci beaucoup, Mehdi Ramdani, pour cette chronique LinkedIn que vous retrouvez tous les vendredis. Inquiétude, Claude, on l'a dit. Il y a la quête de sens, effectivement, mais il y a les salaires. Vous voyez, 51% qui s'inquiètent de la stagnation des salaires.
Oui.
C'est quand même une donnée très intéressante pour retenir ses talents, ce dont on parlait tout à l'heure.
Alors oui, le problème, c'est que toutes les entreprises n'ont pas la capacité d'augmenter en permanence les salaires, ça c'est certain. Dans certains domaines, nous on est plutôt focalisé sur l'environnement des services financiers. C'est une industrie qui a vu ses salaires exploser depuis les 5 dernières années, de par l'arrivée aussi de concurrents internationaux, anglo-saxons, donc du Royaume-Uni et des États-Unis.
Ça a toujours été aussi dans le domaine financier.
Oui, mais il y a une véritable accélération. Donc ces gens-là sont un petit peu moins concernés par ces sujets d'inflation et, je dirais, d'environnement un peu anxiogène où tous les jours on nous dit qu'on gagne un petit peu moins. Mais pour le chef d'entreprise, augmenter les salaires au vu des charges qu'il doit couvrir, c'est loin d'être facile. Surtout quand on est aussi dans un environnement où on parle beaucoup de dettes, de remboursement de PGE. La situation de trésorerie des entreprises n'est pas simple non plus. Les conditions de levée de fonds et d'emprunt sont de plus en plus compliquées. Donc oui, pour beaucoup de chefs d'entreprise, les prochains mois vont être clés.
Dont le recours aux primes qui a été beaucoup encouragé chez nous. Merci beaucoup Claude Calmon d'avoir répondu à nos questions. Fondateur du cabinet de recrutement Calmon Partners.